Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, le patriarche de Constantinople est en Lituanie. La visite de Bartholomée Ier fait suite à sa décision de réintégrer 5 prêtres orthodoxes lituaniens. Ces prêtres avaient été défroqués l'été dernier par leur hiérarchie pour s'être opposés aux positions pro-guerre du patriarche Cyrille, le patriarche de l'église orthodoxe de Moscou. L'affaire illustre les divisions de l'église sur fond de guerre en Ukraine. Cette visite, c'est un soulagement pour les croyants. C'est aussi le retour de l'église orthodoxe de Constantinople en Lituanie plus de 2 siècles après sa disparition. Un reportage de Marielle Vituro.
Ils sont une cinquantaine à suivre l'office ce dimanche dans l'église Saint-Michel, le faiseur de miracles. Cette église, c'est celle de l'ancienne prison Loukichkès. Vidée de ses détenus en 2019, elle est devenue une salle de concert. Et peu importe que le décor soit assez prosaïque, peu importe que les volutes d'encens s'accrochent à des spots lumineux suspendus au-dessus de l'autel. Tous les dimanches, elle sera désormais le havre des orthodoxes, s'opposant à la guerre de la Russie en Ukraine, comme Tatiana.
C'est à la fois une grande joie et un grand miracle. Moralement, c'était très difficile d'aller prier là où on priait avec le patriarche Cyrille. Alors j'allais prier ailleurs, dans les églises catholiques ou dans l'église catholique de rite grec à Vilnius.
Ou alors, comme Natalia, une Russe réfugiée en Lituanie depuis 2015.
C'est très 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 important parce que après la guerre, quand l'église russe supportait Poutine, pour moi, personnellement, c'était très difficile de prier avec l'église russe.
Les 5 prêtres qui servent la messe sont ceux qui ont été révoqués en juin dernier pour s'être opposés aux positions pro-guerre du patriarche Cyrille. Parmi eux, il y a Vladimir Selavko. Sans paroisse, il reçoit désormais au café. Après avoir demandé le soutien du patriarche de Constantinople, l'été a été très difficile.
On a mis en place une cagnotte en ligne pour que les gens puissent donner. L'un de nous a dû travailler comme chauffeur de VTC. Puis à l'automne, nous avons créé une fondation pour recevoir des fonds. On vit comme ça, on se débrouille sans véritable revenu.
Les 5 prêtres ne manquent pourtant pas d'appui. Le gouvernement lituanien a pris fait et cause pour eux. Le 19 septembre dernier, le vice-ministre des Affaires étrangères, Mantas Adomenas, a été reçu par le patriarche de Constantinople. Pas question de s'immiscer dans les affaires de l'Église, selon Mantas Adomenas. Il s'agit là de défendre les droits humains.
Nous nous préoccupons de la liberté de religion et de culte. C'est l'un des droits fondamentaux de l'homme et c'est inscrit dans notre constitution. Il est du devoir du gouvernement de le défendre.
Le patriarche œcuménique a reconnu que les motifs de la révocation étaient politiques. C'est une décision historique qui signe le retour du patriarcat œcuménique en Lituanie. Il en avait été chassé à la fin du XVIIIe siècle quand l'Empire russe avait occupé le Grand-Duché de Lituanie. Combien des 3500 fidèles pratiquants rejoindront finalement l'église de Constantinople? Comment construire une nouvelle communauté? Même s'il confie subir parfois des petites provocations de la part de pro-russes, l'un des prêtres révoqués, Gintara Sungaila, est confiant pour l'avenir.
C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Nous ne mettons plus notre conscience à l'épreuve. Bien sûr, il y a d'autres difficultés. Nous n'avons pas assez de tenues ni de vaisselle liturgique. Mais ce n'est pas grand-chose, ce sont des difficultés bien agréables au final.
Pour cette nouvelle communauté, tout reste désormais à construire et la venue du patriarche en Lituanie va ouvrir de nouvelles perspectives.
L'accès à l'avortement pour les femmes en Europe, en Italie, il est de plus en plus compliqué. Avec l'arrivée au pouvoir du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, les féministes italiennes craignent que la situation ne se détériore encore. Une région en particulier fait figure de laboratoire pour le parti. Ce sont les Marches, dans le centre du pays, gouvernées depuis fin septembre 2020 par Francesco Acquaroli, qui est membre de Fratelli d'Italia. Depuis plusieurs mois, les associations tirent la sonnette d'alarme sur la multiplication des entraves à l'avortement. Reportage entre Macerata et Ascoli Piceno de notre correspondante Cécile Debarge.
La nouvelle est arrivée par lettre recommandée, un 29 décembre, pour une fin de collaboration, deux jours plus tard. Après 13 ans de bons et loyaux services, l'AIED, l'association italienne pour l'éducation à la démographie, ne peut plus ni exercer d'interruption volontaire de grossesse au sein de l'hôpital d'Ascoli Piceno, ni accompagner les femmes qui souhaitaient avorter. Tiziana Antonucci est la présidente de l'association.
Il y avait aussi une consultation au cours de laquelle on expliquait aux femmes leurs droits, le fonctionnement de la loi. C'est important et on leur expliquait les différentes techniques pour avorter. Donc les femmes étaient en mesure de choisir elles-mêmes ce qui leur convenait le mieux selon leur état, leur personnalité, comment se déroulait le parcours hospitalier, toute la procédure et un soutien psychologique, car l'avortement n'arrive pas par hasard, mais dans un moment où les femmes sont plus fragiles et déstabilisées.
Raison officielle, l'hôpital d'Ascoli Piceno compte désormais 4 gynécologues qui acceptent de pratiquer des IVG. Il n'y a donc plus besoin de faire appel à une association extérieure pour garantir ce droit aux patientes. Cela permet aussi de réduire des coûts qui s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Une explication tout à fait légitime, selon Tiziana Antonucci, qui regrette la brutalité de la décision à laquelle elle n'a pas été associée, qui déplore aussi de ne plus pouvoir assurer la partie de conseil et d'accompagnement des patientes.
Ces dernières années, nous avons eu beaucoup de problèmes dans les Marches. Mais au-delà, les Marches reflètent un peu la situation nationale, sans compter que nous avons aidé des femmes qui venaient d'autres départements. Donc le problème de la suspension de notre convention, ce n'est pas tant pour Ascoli Piceno, mais pour toute la région.
C'est dans la province de Fermo, à 70 km plus au nord, que l'accès à l'IVG est le plus difficile. Tous les médecins de la province sont objecteurs de conscience. Ils refusent de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par conviction religieuse. La loi 194 qui autorise l'IVG a été votée en 1978 en Italie. Elle permet l'objection de conscience, mais les structures hospitalières doivent garantir l'accès à l'interruption de grossesse, soit via des contrats de collaboration, comme celui qui a lié l'AIED à l'hôpital d'Ascoli pendant 13 ans, soit en favorisant la mobilité du personnel. Certains hôpitaux ne respectent pas cette obligation, ou dans une infime mesure, comme dans la province de Jesi, où une seule médecin accepte de pratiquer des IVG, explique Tiziana Antonucci.
Si cette médecin tombe malade ou prend des vacances, l'accès à l'IVG est suspendu pendant ce temps-là. Je la connais et je sais qu'elle se sent très coupable quand elle doit le faire. Nous aussi, on a le même problème.
Autre problème rencontré par les femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse, de plus en plus souvent, les centres de planification familiale relaient des messages anti-avortement, comme cela est arrivé à deux patientes rencontrées par Tiziana Antonucci en début d'année.
Des patientes appellent le standard, expliquent qu'elles veulent des informations sur l'interruption de grossesse et le standardiste leur répond « Ah bon, pourquoi tu veux avorter? Pourquoi tu ne le gardes pas ?» C'est arrivé il y a peu à une patiente qui a porté plainte ensuite.
Une autre âgée de 26 ans et déjà mère de deux enfants a décidé avec son conjoint d'interrompre sa troisième grossesse. Dans la salle d'attente, le couple a eu une désagréable surprise.
Une femme qui ne s'est même pas présentée, la patiente ne savait pas qui c'était, cette femme est entrée dans la pièce, elle s'est assise et elle a commencé à lui dire « Pourquoi tu ne gardes pas cet enfant? Tu es trop jeune pour avorter, tu peux tout à fait avoir un autre enfant. »
Ce climat anti-IVG, de plus en plus commun dans les Marches, c'est ce qui alerte la parlementaire démocrate Irene Manzi, qui a tout de suite mis en garde contre la suspension du contrat de collaboration entre l'AIED et l'hôpital d'Ascoli Piceno.
Ce qui semble n'être qu'un acte administratif n'est en réalité pas si neutre, parce qu'Ascoli et le sud des Marches vivent une situation difficile pour l'accès à l'interruption volontaire de grossesse.
En janvier 2021, soit 4 mois après l'arrivée au pouvoir de Fratelli d'Italia à la région, un autre événement avait choqué. Le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a transmis aux régions italiennes les lignes directrices d'une nouvelle mesure pour permettre la distribution à plus large échelle au sein des structures de santé de la pilule abortive RU486, et il s'est heurté à l'exécutif régional, Irène Manzi.
La région des Marches n'a pas voulu accuser réception de ces lignes directrices. Et donc là encore, on met en difficulté les femmes, en particulier celles qui ont moins de possibilités, qui sont les plus fragiles. Et encore une fois, on vide de sa substance un droit que l'État italien a reconnu et affirmé.
Concrètement, la région a donc décidé de ne pas appliquer les lignes directrices du ministère. Début mars 2023, c'est une structure hospitalière d'Ancône, chef-lieu de la région, qui ne peut plus garantir le service d'IVG en raison d'une restructuration. Aucune solution alternative n'est proposée pour le moment. La députée de Macerata, Irene Manzi, dénonce la multiplication des obstacles à l'application de la loi 194.
En théorie, le droit est garanti. Mais si ensuite on ne donne pas les possibilités d'accès, qu'on rencontre de nombreuses difficultés, même dans les plannings familiaux, on supprime des services, comme la convention avec l'AIED, qui était importante non seulement pour les interruptions volontaires de grossesse, mais aussi pour accompagner les femmes, pour les aider. Alors tout devient tellement difficile que de fait, ce droit est complètement amoindri et il n'est plus possible de l'exercer.
Le gouvernement régional se défend en invoquant les chiffres communiqués par le ministère de la Santé pour 2020. 92,9% des hôpitaux de la région pratiquent l'avortement. Mais ces chiffres sont antérieurs à l'accession au pouvoir de Fratelli d'Italia dans les Marches. Ils font aussi état d'une réalité préoccupante. 70% des gynécologues sont objecteurs de conscience contre 64,6% au niveau national. Un chiffre en constante augmentation ces dernières années. Au total, en 2020, dans les Marches, près d'une femme sur 10 a dû avorter dans une autre région. C'est l'un des taux les plus élevés d'Italie.
C'est la journée mondiale de l'eau, couplée jusqu'à vendredi par une conférence des Nations Unies sur le sujet. La première dédiée à l'eau douce depuis 1977. Surconsommation, exploitation non durable des ressources, pollution, réchauffement climatique. Le constat dressé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est alarmant. Trop d'eau par endroit, des inondations, pénurie ailleurs, sécheresse préoccupante. La situation s'aggrave un peu partout. En Tchéquie, le sujet de la sécheresse est relativement nouveau. Ces dernières décennies, les inquiétudes et les politiques se focalisaient davantage sur les inondations et leur possible prévention. Désormais, le pays d'Europe centrale est lui aussi touché par un phénomène de sécheresse qui concerne pas moins des deux tiers de son territoire. Alexis Rosenzweig à Prague.
C'est à l'est du pays, dans la région de Moravie, que le constat est le plus flagrant. Dans le sud, près des frontières slovaques et autrichiennes, certains endroits commencent à ressembler à la Jordanie, selon les propres mots d'un expert tchèque en hydrochimie. Assez désespéré par le manque de cohérence des initiatives lentement prises par les autorités pour endiguer les problèmes liés au manque d'eau. Sur la carte actuelle de l'Europe, la sécheresse du sol morave est équivalente en ce début de printemps à celle observée en Andalousie, ce qui fait craindre une saison difficile à tous les viticulteurs de cette région, notamment en Moravie. Comme à Prague, ce sont les inondations qui ont été une préoccupation majeure ces deux dernières décennies, mais le changement du paysage et certains signes alarmants ont progressivement fait prendre conscience des conséquences de la sécheresse, avec notamment des impacts sur la traditionnelle culture du houblon et surtout la baisse constante du niveau des nappes phréatiques depuis plusieurs années, selon l'Institut tchèque d'hydrométéorologie, qui rappelle cependant que le pays a déjà connu des épisodes comparables de sécheresse dans les années 90 et également il y a plusieurs siècles. En témoigne la résurgence de ce qu'on appelle la pierre de la faim, l'un des plus anciens monuments hydrologiques d'Europe centrale, situé dans le lit de l'Elbe au nord de Prague, en Bohême. La pierre annonçait les années de famine à venir, dues aux maigres récoltes obtenues à cause de la sécheresse. Quand le niveau du fleuve baisse drastiquement, la pierre apparaît, gravée de différentes dates, dont la plus ancienne correspond à l'année 1616, et des inscriptions discernent notamment une phrase en allemand qu'on peut traduire par « Si tu me vois, pleure », une inscription visible une nouvelle fois en août dernier.
Aux Pays-Bas, la question de l'eau est prise très très au sérieux depuis longtemps déjà. Après tout, le pays n'a-t-il pas été gagné sur la mer, faisant des Néerlandais des ingénieurs hydriques recherchés? Le pays compte une vingtaine de circonscriptions de l'eau chargées de la lutte contre les inondations et les raz-de-marée. Les Waterschappen, parmi les plus anciennes autorités du pays. Des Waterschappen toujours importantes aujourd'hui, alors que face à l'intensification des inondations d'un côté et des épisodes de sécheresse inédite de l'autre, les inquiétudes se font de plus en plus fortes. Waterschappen, c'est notre chronique en un mot avec Antoine Moutot.
Dans la campagne de Pijnacker Noorddorp, entre Rotterdam et La Haye, comme à son habitude, Gerrit ten Haan fait le tour du polder afin de vérifier l'état des infrastructures de gestion de l'eau. Juste au-dessus d'un fossé, il nous ouvre les portes d'une cabine un peu spéciale.
Alors en ce moment, on se trouve à la station de pompage du polder de Laud-Leide. Et c'est une station qui sert un territoire en grande partie rural et agricole. Alors là, vous voyez les pompes qui se trouvent en dessous. Là, ce sont les vannes. Donc, lorsque nous activons la station, les vannes s'ouvrent, les pompes démarrent. Je vais vous montrer. Ce que vous entendez là, c'est l'ouverture de la vanne. Ça va durer quelques minutes.
Gerrit ten Haan travaille pour la Waterschap. Ces derniers temps, il a lui aussi remarqué une intensification des averses.
Désormais, on est souvent confronté à de fortes averses. Dernièrement, il est encore tombé 50 millilitres en une demi-heure. Heureusement, les stations de pompage sont opérationnelles, tout comme les barrages. Mais bon, quand même, par moment, le niveau de l'eau est un peu élevé, ce qui provoque des inondations dans les caves.
Un débat très actuel, géré par une autorité très ancienne, comme le rappelle le Dijkgraaf du Delftland, Piet Hein Daverveld. Le Dijkgraaf est lui aussi typique des Pays-Bas, en français littéralement le comte des digues. C'est une sorte de haut fonctionnaire nommé tous les 6 ans par le roi.
L'endroit de La Haye où nous nous trouvons maintenant, il y a encore 800 ans, ce n'était que des marais. Donc pour pouvoir vivre et habiter ici, des gens ont dû unir leurs forces et construire des barrages afin de rendre cette terre praticable. Les Waterschappen, dont celui du Delftland, sont les plus anciennes autorités que comptent les Pays-Bas. Elles ont été créées avant les provinces, avant les villes et avant le gouvernement.
Okay. 800 ans plus tard, les Waterschappen ont toujours toute leur importance. Dans l'une des salles d'Amarée, un imposant centre culturel flambant neuf au cœur de La Haye, l'équipe technique procède au dernier réglage. La télévision régionale Omroep West s'apprête à retransmettre un débat primordial pour les un peu plus d'un million d'habitants de la Waterschap du Delftland.
Van harte welkom bij het grote waterschapsverkiezingsdebat.
La Waterschap du Delftland est l'une des 21 waterschappen du pays. Ce sont des entités publiques dont l'une des tâches principales est l'entretien des cours d'eau et des digues. Sorte de circonscription de gestion de l'eau, les Waterschappen sont dirigés sur un modèle démocratique. Tous les 4 ans, les Néerlandais doivent élire leurs représentants. Et tous les 4 ans donc, des débats comme celui-ci sont organisés dans tout le pays. Un par un, les candidats des différents partis sont appelés à se présenter et expliquer brièvement pourquoi ils sont les mieux à même de gérer la Waterschap.
Je m'appelle Manita Koop. Je suis tête de liste pour le parti chrétien-démocrate dans le Delftland. Je suis née à Den Hoorn et j'en suis bien contente car ce village se trouve à la limite entre la zone des serres de légumes et la zone urbaine. Là-bas, j'ai pu constater à quel point les agriculteurs, les horticulteurs, mais aussi les habitants peinent à garder les pieds au sec et en même temps à avoir assez d'eau.
Les problèmes des pluies de plus en plus intenses d'un côté et de la sécheresse de plus en plus fréquente de l'autre reviendront régulièrement au cours du débat. Le 15 mars dernier, les habitants du Delftland ont voté pour les élus de leur Waterschap. Avec un taux de participation en forte hausse dans tout le pays, 50% contre 43% en 2015, les Waterschappen semblent être prises de plus en plus au sérieux.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Le podcast de l'émission est disponible sur rfi.fr et sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez vous abonner. À bientôt.